Malheureusement, le bilan, en fait, il est assez sombre parce que le Turkménistan, malgré l'indépendance, est resté complètement dans la logique stalinienne, totalitaire, c'est-à-dire avec un parti unique, avec aucune opposition tolérée, pas de liberté de la presse, pas de liberté d'Internet, et une population qui est plutôt en souffrance.
Quelle est la situation économique du pays?
La situation économique du pays, elle est assez paradoxale parce que d'un côté, le pays dispose d'importantes ressources gazières, ce qui lui permet d'avoir une indépendance financière qui est confortable par rapport à d'autres pays en voie de développement. Néanmoins, en fait, ces ressources financières sont accaparées par le pouvoir. Le pays vit dans une relative pauvreté.
Est-ce que le pays est arrivé un petit peu à s'ouvrir sur l'extérieur? C'était un de ses premiers défis. Est-ce que selon vous, il a été en partie, en tout cas, rempli?
A priori non, puisque certes des entreprises étrangères peuvent s'être implantées à Ashgabat. Néanmoins, il n'y a pas d'ouverture via Internet. Pendant quelques années, il y a eu même un visa de sortie, c'est-à-dire que pour la plupart des habitants, il était impossible de sortir du pays. En fait, les Turkmènes n'ont pas vraiment d'ouverture sur l'extérieur, à part quelques exemples de télévision, même si la télévision est monopolisée par des chaînes d'État à la gloire du président.
La liberté de la presse est dans une situation dramatique. Comment se traduisent quotidiennement ces atteintes aux droits de l'homme?
En fait, ça se traduit par une angoisse permanente. Tous les habitants craignent quelque chose, craignent des propos qui peuvent être rapportés, le fait d'être dénoncés. Et évidemment, pour la presse, c'est encore plus réel puisque ça se traduit concrètement par des arrestations, de la torture dans les prisons et même des disparitions en fait de journalistes.
Le Turkménistan a-t-il complètement rompu avec la Russie?
Alors, la rupture, en fait, elle est plus théorique que concrète. Il y a toujours des relations diplomatiques malgré la situation du pays. D'ailleurs, la Russie ne condamne pas très fermement ce régime. Par contre, pour le peuple, la rupture, elle est très forte, c'est-à-dire qu'on essaye de renouer avec le passé turkmène, quitte à s'inventer un passé turkmène qui n'existe pas. C'est vraiment typique, par exemple, dans la Rukhnama, qui est le livre saint du président, où on observe une volonté de passer sous silence le passé russe, justement. Par ailleurs, au niveau de la population, il y avait normalement une forte population russe dans ces pays d'Asie centrale. Elle est en train de complètement disparaître, puisque tous les Russes ont essayé de repartir, du coup, chez eux, parce qu'ils font l'objet d'une oppression assez importante.
La liberté de religion, il y a deux religions qui ont été autorisées officiellement, qui sont la religion donc musulmane sunnite et l'église orthodoxe russe. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de l'état dans lequel se trouvent les autres groupes religieux?
On n'a pas vraiment, contrairement aux autres pays d'Asie centrale, par exemple, une islamisation du pays, parce que le pays est tellement sous contrôle que ça n'est pas possible. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, c'est la seule mosquée du monde à avoir donc inscrit sur ses parois non seulement les paroles du Coran, ce qui est normalement autorisé, et là aussi les paroles du président. C'est assez unique au monde. Ce régime, en fait, se traduit de manière assez paradoxale, parce que d'un côté, ce que je connais mieux, c'est évidemment l'urbanisme. Et sur l'urbanisme, on peut dire que ça traduit tout à fait la réalité du pays. D'un côté, le faste, d'un côté, une histoire réinventée du Turkménistan, et de l'autre, au quotidien, un peuple qui essaye de survivre derrière le marbre, derrière les façades, derrière les fontaines et les statues dorées. Il faut que le peuple trouve des solutions, et concrètement, ça se traduit par une difficulté de vivre qui est vraiment très criante.